RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour l'avant-dernière fois sur les routes du Tour de France 2023. C'est l'avant-dernière étape, mais c'est la dernière véritable étape, celle qui compte en tout cas pour le classement général et pour les grandes victoires avec cette dernière étape qui se déroule dans la montagne. Nous avons déjà franchi les Pyrénées, le Massif Central, les Alpes, le Jura et aujourd'hui, eh bien, nous sommes dans les Vosges avec cette terrible étape et l'arrivée tout à l'heure au Markstein. Il y aura pas moins de 6 difficultés aujourd'hui, 3 classées en deuxième catégorie, 1 en troisième catégorie et les 2 dernières en première catégorie. Il n'y a quasiment pas un seul kilomètre de plat aujourd'hui dans cette magnifique étape où un homme est évidemment attendu. Il est encouragé par des millions de, enfin peut-être pas des millions, des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de spectateurs qui ont pris place aujourd'hui sur le bord des routes. Cet homme, c'est évidemment Thibaut Pinot, dont c'est la dernière étape de montagne sur les routes du Tour de France, puisque vous le savez, il prendra sa retraite à l'issue de la saison. C'est donc son dernier Tour de France et il est chez lui aujourd'hui dans le massif des Vosges, dans ses cols qu'il pratiquait, qu'il montait tous les jours lorsqu'il était gamin. Et aujourd'hui c'est la fête de Thibaut. On va vous faire vivre évidemment cette étape jusqu'à 18h avec toute l'équipe de l'Intégral Tour qui est encore en pleine forme. On pourrait faire une quatrième semaine, n'est-ce pas mon Jérôme?
Mais bien sûr Christophe, bonjour à tous. Oui, on pourrait enchaîner même sur les filles, sur le Tour de France femmes.
Exactement, ce serait pas mal. Cyril Guimard, lui aussi, comme s'il avait 20 ans, comme s'il avait encore 20 ans. Il l'a dans la tête. Salut Cyril.
Oui, oui, bonjour. J'ai toujours 20 ans.
C'est l'essentiel.
Non, 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 si, si, j'ai toujours 20 ans.
6 fois 20 ans, quoi.
Non, non, j'ai toujours 20 ans. D'ailleurs, si je porte des chemises à fleurs, voilà.
C'est un hommage à Antoine.
20 ans.
Pierre-Yves Leroux, lui, n'a plus 20 ans, ça se voit quand même. Hein, là, quand même,
on
touche aux pattes arrière.
La troisième semaine, c'est compliqué, mais c'est vrai que c'est une journée extraordinaire. Il avait annoncé qu'il prendrait. Qui mettrait fin à sa carrière cette année. C'est une grande journée. Il a été champion national. Il a couru avec Jérôme Coppel. Il fête son anniversaire en plus aujourd'hui. Donc Dries De Venins, 40 ans aujourd'hui. C'est évidemment une grande journée. Il y en a pour qui c'est la fête. Lui, c'est son anniversaire. Donc évidemment, on aura une pensée pour lui aujourd'hui.
Eh ben oui, on n'a pas fêté l'anniversaire hier soir. C'est étonnant.
C'est la journée des retraites ou des pré-retraites alors.
Ben oui, pourvu que ce soit pas la nôtre. Hein,
c'est le doyen du cochon. C'est le doyen du peloton quand même, hein, donc c'est normal qu'il ait un hommage aujourd'hui sur nos ondes.
Exactement, tout le monde est là. Arnaud Souk également, qui est toujours. Alors, ce n'est plus une moto-ambulance parce que le garçon a été soigné avec efficacité. Et aujourd'hui, il est là, prêt à nous faire vibrer tout au long de cette étape. Salut Arnaud, en compagnie de Marco, évidemment. Bonjour les
garçons. Salut les copains, tout va très très bien. Mais tiens, puisque tu parlais de Dries De Venins qui fête ses 40 ans aujourd'hui, Pierre-Yves, c'est comme Philippe Gilbert l'an passé qui avait fêté ses 40 ans également sur le Tour de France. Alors c'est pas parce qu'il a 40 ans que c'est le plus vieux coureur du Tour. Je suis allé chercher, figurez-vous, j'étais assez étonné parce que ça m'amusait quand même d'aller chercher ça, j'avais que ça à faire ce matin. Jules Bannino lors de la première étape Tour, alors je sais plus en quelle année c'était en 1905 je crois, oui. Avait 51 ans et 219 jours, voilà. Et Henri Paré en 1904 a couru le Tour également l'année de ses 50 ans. Et puis je suis allé chercher le plus vieux vainqueur du Tour, Firmin Lambeau en 1922, 36 ans et 131 jours, bref. Des quadras, voire des quincailles, il y en a quelques-uns sur le Tour.
Eh ben voilà, mon Cyril, on va s'y remettre. Tu vas t'y remettre, toi, pour l'année prochaine. Tu t'entraînes.
Il n'y a pas de problème. Hein. En fait, j'avais jamais l'intention de décrocher. Hein. D'ailleurs, je prépare le record du monde de l'heure des plus de 100 ans.
Voilà, c'était, comment s'appelait-il déjà?
Robert Marchand
qui détient ce record. Je suis sûr que Cyril peut le battre dans les années à venir. Bon, il n'a pas encore 100 ans quand même, notre druide.
Il faut qu'il fasse un petit peu de rééducation encore.
Oui, voilà, il est un peu raide au niveau
du bassin.
Bas du dos, au niveau du bassin. Mais ça va mieux. Et il est en pleine forme et il nous a régalé tout au long de ces 3 semaines, comme les coureurs de ce Tour de France, la 110e édition. Je le disais, demain il y a une étape, mais enfin, ce n'est pas une véritable étape, sauf peut-être pour les sprinteurs. Mais demain, c'est l'étape de la balade, l'étape de la célébration, l'étape du champagne et les petits fours, et l'arrivée sur les Champs-Élysées. On rappelle que l'année prochaine, il n'y aura pas d'arrivée sur les Champs-Élysées. Donc aujourd'hui, les coureurs vont en profiter, d'autant que l'année prochaine, ce ne sera pas une arrivée pour les sprinteurs, puisque la dernière étape sera consacrée à un contre-la-montre. Donc la dernière étape de ce Tour de France, malheureusement, c'est un peu comme ça. Eh bien, c'est aujourd'hui. Et le plateau, le programme est magnifique, Pierre-Yves, avec, je le disais, pas moins de 6 difficultés à franchir aujourd'hui. Les organisateurs du Tour nous ont mis sillonné une dernière étape de montagne de toute beauté. Hein.
Ouais, avec trois départements traversés, le territoire de Belfort, où se trouve actuellement le peloton. Le peloton va à la fin du ballon d'Alsace dans 7 km basculer dans les Vosges, où il y aura trois difficultés, le col de la Croix des Moinas, le col de Grosse-Pierre et le col de la Schlourte. Et on redescendra vers le Haut-Rhin, le petit ballon et le col du Platzer-Wasel avant l'arrivée au Markstein. Donc voilà, des hauts, des bas, des deuxièmes catégories, des troisièmes catégories et pour finir, deux cols de première catégorie. Ça devrait bagarrer ferme et ça bagarre déjà ferme pour essayer d'être à l'avant. Il y a un garçon qu'on a vu tous les jours depuis le début de cette dernière semaine, c'est Victor Campenaerts qui est parti tout à l'heure avec Jesper De Beist, son coéquipier. Il est tout seul, son coéquipier n'a pas réussi à suivre, mais il n'a plus que quelques secondes d'avance désormais sur le peloton, emmené il y a quelques instants par Matteo Trentin, coéquipier d'un certain Tadej Pogacar. C'est un signe. Le maillot blanc veut lever les bras aujourd'hui.
Eh oui, effectivement, Pogacar qui a perdu le Tour de France lors de ces deux étapes qui ont été terribles pour le grand coureur slovène lors du contre-la-montre en direction de Combloux et le lendemain en direction de Courchevel où il a perdu beaucoup de temps. Il n'y a plus de suspense pour la victoire finale, mais effectivement, il y a beaucoup de suspense pour cette étape, Jérôme, que beaucoup de monde veut accrocher. C'est la dernière étape de montagne, évidemment. Alors, on parlera tout à l'heure de Thibaut Pinot, mais c'est vrai que Tadej Pogacar a l'orgueil du champion. Et l'orgueil, si les jambes vont avec, pourrait lui permettre de remporter l'étape. Hein.
Bien sûr, alors lui ou un de ses coéquipiers, on ne sait pas si vraiment l'équipe UAE vont travailler pour lui. Lui a annoncé vouloir essayer en tout cas de gagner cette étape, de récompenser son équipe. Ils sont en train de mettre en application ce qu'ils ont dit. Ils sont déjà à la barre pour faire un gros tempo dans ce premier col, peut-être pour éviter quelques attaques et filtrer déjà ou rendre la course difficile. Est-ce que c'est pour Pogacar? Est-ce que c'est pour Adam Yates? On rappelle qu'Adam Yates est troisième du classement général, mais il est quand même sous la menace de Rodriguez. On peut même tirer jusqu'à Peyo Bilbao, par exemple, s'il fait de nouveau une grande étape, l'Espagnol de l'équipe Bahreïn. Mais on devrait avoir une grande étape. Et il y a aussi un autre enjeu aujourd'hui, c'est le maillot à poids. On a vu l'équipe Lidl Trek rouler, bien sûr, pour Ciccone. J'ai regardé tout à l'heure, il y a quatre coureurs mathématiquement qui peuvent encore l'emporter. Ciccone, Félix Gall, Jonas Vingegaard, bien sûr, et Nelson Paoles. Nelson Paoles, faudrait qu'il fasse le plein. Voilà, faut qu'il fasse le plein et faudrait pas que Ciccone ou Vingegaard prennent quelques points.
C'est quasiment impossible.
Voilà, pour Paoles, ça va être compliqué, mais Ciccone, Gall ou Vingegaard, on ne sait pas qui sera en maillot à poids à Paris encore.
Mais Nelson Paoles, on le voit plus trop depuis quelques jours. Hein, depuis qu'il a cédé son maillot à poids,
était quand même échappé, mais ça a été un des premiers à sauter dans la dernière petite montée de quatrième catégorie. Il est vraiment sur les rotules, Paoles.
Mais il n'a pas mis la flèche, et c'est aussi un des enjeux aujourd'hui, c'est de terminer dans les délais, parce qu'un garçon comme Adrien Petit est déjà à 1 minute 20 derrière. Quand on sait que c'est la difficulté, la nervosité de ce type d'étape, il va falloir très attentif à Adrien Petit qui avait chuté il y a quelques jours.
Ouais, alors il y a aussi Jasper Stuyven qui a sauté, Lafay, Morkov. Il y a un petit groupe Eto déjà qui est un petit peu en train de se former, mais vous savez, l'étape d'hier qui a roulé sur un tempo d'enfer, il y en a qui vont avoir aujourd'hui un peu de mal à mettre en route, et il ne faudrait pas que certains aillent à Paris un petit peu plus tôt que prévu.
C'est le cas de Simon Clark aussi qui avait eu des crampes hier, qui est déjà dans les 10 derniers de ce groupe avec Jordi Meus également et Welsford. Tous les sprinters sont en train de se regrouper.
Alors il n'y a pas encore véritablement d'échappé, parce que Campenaerts avait 5 secondes d'avance au dernier pointage. Il est toujours devant, Campenaerts, ouais.
Oui, pour quelques secondes encore.
5 exactement. 5 secondes d'avance.
Ils sont en train de le laisser mourir. C'est pas sympa ça, ouais. Cyril, de laisser un garçon comme ça devant à 5 secondes. Il doit souffrir. Mais bon, peut-être qu'il essaye de se montrer pour le prix de super combatif du Tour de France. Hein. Ça peut le faire pour lui, Cyril, il est parti.
C'est parti. Non, mais c'est Jérôme qui ouvre son micro normalement.
Mais là,
est-ce qu'on entend Cyril?
Non, je n'étais pas absent. J'essayais tout simplement de savoir ce que Zwiatkowski avait dit à l'oreillette. Voilà.
Zwiatkowski.
Bon, tu parles le polonais maintenant.
C'est un nouveau.
C'est un nouveau coureur, ça.
Oui, je parle le polonais, même pas sous la torture.
Alors, qu'est-ce qu'il peut lui avoir dit à l'oreillette?
Il faisait référence à une étape précédente où UAE voulait gagner l'étape, et finalement, je crois que c'est eux qui ont gagné l'étape. Voilà. Donc, qu'il fallait intégrer cette notion.
Très bien, on va écouter Mauro Gianetti que nos reporters ont rencontré ce matin, le manager de la formation UAE, sur la forme, sur l'orgueil de Pogacar et sur sa volonté aujourd'hui de s'imposer et pourquoi pas de mettre quand même deux coureurs de la formation UAE sur le podium final du Tour de France demain. Mauro Gianetti.
Bon, et j'espère qu'il soit bien, qu'il soit récupéré moralement plutôt que physiquement, parce que physiquement il a quand même eu une mauvaise journée, mais il a sauvé le podium avec une grande classe. Donc j'espère qu'il est bien, qu'il puisse faire un dernier journée en donnant un peu du spectacle comme il a fait pendant ces trois semaines.
Voilà, le spectacle, tout dépendra des jambes. Il nous l'avait déjà dit il y a quelques jours, Mauro, c'était juste avant l'étape de Courchevel. Est-ce que vous pensez que les jambes de Poggi ont retrouvé de leur superbe, Jérôme et ensuite Cyril?
Oh oui, je pense que les jambes sont bonnes. Il est quand même deuxième du Tour de France. Hein. C'est vrai qu'on dit qu'il est loin. Il est loin en temps, mais en place, il est deuxième. Mais maintenant, on sait qu'encore plus en troisième semaine, c'est la tête qui guide les jambes. Et comme le dit Mauro Gianetti, est-ce que mentalement, il est prêt à aller à la bagarre? Il est prêt à se faire mal? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, physiquement, bien sûr, qu'il sera dans le match pour essayer d'aller gagner l'étape. Après, si ça se fait vraiment à la pédale, dans un mano à mano avec Vingegaard, par exemple, je pense quand même que Vingegaard est au-dessus. Mais oui, les jambes sont là. Il est deuxième du Tour. Oui, il a eu une mauvaise journée au col de la Lauze, mais je pense qu'aujourd'hui, il est capable d'aller gagner l'étape.
Cyril, tu le mets parmi les favoris Pogacar aujourd'hui?
Oui, bien sûr. Bah, on est obligé de le mettre. C'est quand même pas n'importe quel coureur. Mais je rejoins Gianetti quand il dit s'il a les jambes. Oui, bah, ça, c'est vrai pour tous les coureurs. Hein. Il aurait pu éviter de le dire, on le sait. Il aurait pu prendre du temps pour dire autre chose. Moi j'ai horreur de ces phrases toutes faites.
Ouais, mais je pense que des fois on oublie parce qu'on pense que Pogacar et Vingegaard ont toujours des bonnes jambes et on a vu qu'au col de la Lauze non. Donc je pense que c'est dans ce sens là il veut rappeler que même Pogacar, bah, il doit avoir des jambes pour faire quelque chose sur le Tour de France.
Oui mais c'est vrai pour Petit aujourd'hui, il faut qu'il ait des jambes aussi pour rentrer dans les délais
encore plus que Pogacar
et finir le Tour de France alors que dans la tête il soit plus dans le classement général. C'est une chose, mais pour aller chercher la gagne, s'il a les jambes, s'il a les jambes, mais il faut surtout qu'il ait envie d'y aller. S'il a envie d'y aller, il aura les jambes.
Ouais. Mauro Gianetti qui a également répondu sur justement la préparation de Pogacar. On rappelle qu'il a été victime d'une fracture du scaphoïde lors d'une chute. C'était dans Liège-Bastogne-Liège, c'était en avril dernier. Il n'avait pas pu s'entraîner pendant de longues semaines. Il n'a pas pu faire de grandes compétitions avec une seule journée de course avant le Tour de France. C'était lors du championnat de Slovénie. Alors on se posait la question au début de tour si cela aurait pu le handicaper. Est-ce que ça l'a handicapé, la réponse de Mauro Gianetti?
Ça c'est la question, ça c'est la réponse de même temps, parce que il a fait 5 semaines sans toucher le vélo en vivant une situation de stress, parce que bien sûr c'est un coureur cycliste, il aime faire du vélo. Il voyait les autres participants au tour qui faisaient des kilomètres, ils faisaient du volume, et lui il était obligé à pas faire du vélo. 3 semaines et demie d'entraînement, ça peut aller même pour un champion comme lui, peut-être pour une course d'une semaine, mais pas pour le Tour de France, on le savait. C'était une mission impossible, il est deuxième, je pense qu'il a accompli quand même si c'était une mission impossible.
Mission Impossible, nous dit Mauro Gianetti.
Oui, voilà. Mais là, je suis pas.
T'es pas d'accord, mais t'es jamais d'accord.
Je crois pas un seul des mots qu'il dit.
D'accord.
Non, et là, je suis d'accord avec Cyril. Il a pas fait 5 semaines sans vélo. Il a fait 5 semaines sans vélo de route. Oui, certainement qu'il a pas pu aller en extérieur. Pas avant 5 semaines, en tout cas après son opération, mais il a fait de l'home trainer très tôt.
Mais alors le home trainer, ça remplace
Non, ça remplace que sur l'home trainer, vous pouvez quasiment tout faire, sauf du volume. Vous pouvez pas faire 6 heures de home trainer.
C'est un peu long.
Vous pouvez, mais c'est pas bon pour votre santé. On va se déshydrater, etc. On peut faire des intensités, on peut retrouver le coup de pédale. Ces résultats, on peut revenir très vite en forme, mais en général, on n'arrive pas à maintenir dans la durée, parce que ce qui permet aux coureurs du Tour de France d'être bien aussi en troisième semaine, bah, c'est d'accumuler du volume. Du volume à basse intensité, et ce volume il passe oui par l'entraînement mais aussi par les courses. C'est pas pour rien que tout le monde passe par le Dauphiné ou le Tour de Suisse, où Pogacar avait l'habitude d'aller au Tour de Slovénie, parce qu'on fait du volume. Il y a des étapes comme celle d'il y a 2 jours là, où vous avez les 3 coureurs, dont Kasper Asgreen qui gagne l'étape à l'avant. Bah derrière finalement vous faites de l'endurance parce que vous roulez pas très vite, donc vous faites du volume. Et ça c'est exactement ce qui a dû manquer à Tadej Pogacar. Par contre, allez, à mon avis, une semaine semaines après, il était déjà sur le home trainer, sur son vélo de chrono. Voilà. Moi, j'ai eu le scaphoïde aussi, et puis une semaine après, j'étais sur le home trainer avec le vélo de chrono. Mais par contre, c'est vrai qu'il a pas pu faire de volume. Et le problème du scaphoïde, c'est que les vibrations sont archi douloureuses. Donc, faut vraiment attendre avant de pouvoir aller dehors. Et là, effectivement, peut-être qu'il a pas pu rouler dehors, pas avant 5 semaines. Après, ça restait 3 semaines et demie avant le Tour. Mais dans ces 3 semaines et demie, il a pas roulé tous les jours non plus. Il a bien dû faire un jour de repos par-ci par-là. Donc, ça a dû lui faire 10-15 jours effectifs de travail.
Ceci dit, Jérôme, tu vas peut-être dire que je suis un peu tordu. Quand tu commences à mentir en disant il a été 5 semaines sans faire que, tu sais absolument plus ce qu'est la vérité. Et demain, on va te le changer. C'est pas ce qu'ils ont dit au départ du Tour. Au fil du Tour, en fonction du positionnement des coureurs, comme par hasard, le programme de Pogacar change. Donc, tout ce qu'il nous raconte, c'est du pipeau. Pour moi, il n'y a pas 50 solutions. Il a repris au bout d'une semaine et pour d'autres raisons, on a vu d'autres coureurs qui, même après une opération et surtout une opération, ils repartent beaucoup plus vite que s'il n'y a pas d'opération. Parce que la plupart du temps, on va mettre des vis ou des plaques, etc. Moi, je pense qu'au bout de 3 semaines, il avait repris l'entraînement sur la route, ne serait-ce que pour faire du volume.
On a vu des images d'ailleurs de Pogacar s'entraîner sur la route quelques semaines avant le départ du Tour de France. Donc, évidemment,
oui, on l'a même vu s'entraîner de façon très intensive en course à pied.
Ouais. Tiens, dernière question avant de faire une petite pause. Pogacar donc battu dans ce Tour de France, c'est la deuxième année consécutive. Est-ce que il pourrait pas essayer d'aller, pourquoi pas, s'aligner au départ de la Vuelta dans quelques semaines? Est-ce que ça pourrait être une idée pour vous?
Alors, ça pourrait être une idée, mais il a déjà annoncé qu'il n'y serait pas. Par contre, moi, j'aimerais bien le voir, bien sûr, essayer d'aller gagner un Giro ou une Vuelta dans les années à venir. Alors, apparemment, pas pour l'année prochaine encore, mais il a dit que ça, bien sûr, il avait dans un coin de sa tête l'idée d'aller s'aligner sur le Giro, voilà, et de remporter les 3 grands tours, mais pour 2023, il n'ira pas sur la Vuelta.
On aurait bien aimé quand même le voir affronter Remco Evenepoel, qui lui sera présent au départ du Tour d'Espagne, qui prendra donc son envol à la fin du mois d'août. 14h22 sur RMC, on va faire un top course avec toi Pierre-Yves. Nous sommes dans l'ascension, la première difficulté du jour, le ballon d'Alsace que le peloton va franchir dans 1 km 300 désormais, le top course.
RMC
Top Course.
Course nerveuse aujourd'hui pour venir jusqu'au Marstein. 110 km encore à parcourir. 1 km du sommet pour le peloton. Des garçons qui sont lâchés. Un groupe Eto est en train de se former. Mais personne n'arrive pour le moment à sortir de ce peloton. Dans quelques instants, on aura la bagarre pour le classement du meilleur grimpeur. Le maillot à poids. La bataille entre Giulio Ciccone, emmené par un certain Mats Pedersen, champion du monde en 2014. Et la bataille avec les AG2R de Félix Gall. Ça parle dans les oreillettes, ça cause. Quelle est la bonne stratégie? On va le savoir dans quelques instants. 5 points à aller chercher pour le premier. On rappelle que Félix Gall a 6 points de retard sur Giulio Ciccone.
Voilà, on va rester quelques instants pour voir le passage de cette première difficulté, le ballon d'Alsace, qui est le plus haut sommet de ce massif des Vosges, me semble-t-il. C'est ça, à moins que ce soit le grand ballon.
Non,
je sais plus. Non, c'est le grand ballon.
C'est le grand ballon plutôt.
Ouais, c'est le grand ballon. Mais on pourrait faire le grand ballon de toute façon. Arnaud sur la moto, pour l'instant pas de bagarre. Tu es juste devant le peloton. Hein.
Oui, oui, mais alors la bagarre, c'est pas forcément facile qu'il y ait une grande bagarre parce que le haut de ce ballon d'Alsace, de ce col du ballon d'Alsace, qui fut d'ailleurs le premier franchi par le Tour de France en 1905, c'est assez, c'est quasiment du sprint, hein, si vous voulez, c'est quasiment plat. Enfin, j'exagère un petit peu, mais c'est les pourcentages sur le haut sont relativement peu élevés, donc il y a pas matière à faire d'énormes différences. Donc c'est vraiment, ça va se jouer au tout dernier moment.
Allez, on va voir le sprint dans quelques instants. Nous sommes à 400 mètres du passage du ballon d'Alsace.
Et Julien Alaphilippe qui a été obligé de donner un coup de patin parce que il s'est retrouvé pris en sandwich. Dylan Van Baarle lui colle des gifles parce que les spectateurs sont un petit peu trop près, et Giulio Ciccone pour l'instant n'a pas à démarrer. Il est dans la roue de Skelmose, bien encadré, tranquille. Julien Alaphilippe lui surveille, on ne voit pas du tout
Félix Gall,
donc à mon avis Giulio Ciccone va aller chercher tranquillement les 5 points emmenés par Skelmose. Ça va être du pain béni pour l'Italien Giulio Ciccone, qui voit personne le suivre. Il va tranquillement passer 5 points pour Ciccone. Il y en en aura également pour Skelmose. Derrière, il y a également Mats Pedersen, Dylan Van Baarle, Vingegaard. Donc pour ce coup-là, c'est un coup à l'eau pour la bataille. En tout cas, c'est un coup d'avance. Il y a maintenant 11 points d'avance pour Giulio Ciccone. Et on essaye de réagir dans la descente pour essayer de prendre du champ.
Étonnant quand même que Félix Gall n'ait pas cherché à aller prendre des points.
Oui, le maillot à pas l'intéresse pas. Il était placé pour, il avait les équipiers autour, et puis d'un seul coup il a reculé. À mon avis, il n'avait pas les jambes pour aller faire le sprint, donc il a préféré peut-être
garder un peu
en espérant être mieux placé sur les prochaines ascensions.
Allez, 109 km de l'arrivée, nous sommes donc dans la descente du Ballon d'Alsace. Suivront le col de la Croix des Moinas, le col de Grosse-Pierre, le col de la Chourte, le col de Platzer-Wasel. Et il y en a un autre, me semble-t-il, c'est le petit ballon dont on parlera tout à l'heure. C'est sans doute la difficulté majeure de cette journée. A tout de suite sur RMC, c'est l'Intégral Tour que vous écoutez, il est 14h26.
RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
Jusqu'à 18h et pour l'avant-dernière intégral tour de ce Tour de France 2023. Demain, on plie les Gaules. Demain, d'ailleurs, l'intégral tour débutera à 16h avec départ de l'étape à 16h30. Et nous serons ensemble jusqu'à 21h. L'after, ce sera entre 20h et 21h dans la foulée de l'intégrale. Voilà, on préparera pas grand-chose et on vivra et avec les réactions. Et on...
Dans la présentation de l'étape du lendemain par Jérôme Coppel. Alors, un réveil vers 11h15. Première catégorie, c'est sortir du lit. Déjà, première difficulté.
Mais en revanche, demain matin, il est prévu à l'aube, 8h40.
Ouais, vous me faites pas de cadeau.
Non, pas de cadeau.
Jusqu'à la fin, vous allez me presser comme un cifre.
On sera tous les deux. On laissera dormir.
Double peine.
On laissera dormir le Leroux qui a besoin de sommeil en cette troisième semaine. Il est fatigué.
Pour une fois que vous allez travailler le matin.
Ouais, pour une fois qu'on
c'est pas moi.
Allez, on fait un point avec toi, Pierre-Yves. Nous sommes dans la descente du Ballon d'Alsace qui a été avalé. C'était donc la première difficulté du jour. Il y en aura d'autres à se mettre sous la dent. Hein. Allez, le top course.
RMC
Top Course.
Et comme on l'a dit, c'est une étape nerveuse. Ça veut dire qu'on est déjà pratiquement à la barre des 100 km, 102 encore à parcourir avec un garçon qu'on a vu un peu en début de semaine, qu'on n'a plus trop vu ensuite. Il a eu des soucis. C'est le français Zingley. Mais en revanche, Alaphilippe, Van Der Poel, on les a vus. Neylands également. Paulès, on l'a vu. Et bien ces garçons, Warren Barguil, Mikel Landa, le favori de Cyril aujourd'hui, Mathieu Burgodo également sont à l'avant, Giulio Ciccone, mais c'est à l'avant du peloton dans la descente de cette première difficulté. Pour le moment, personne n'a réussi à créer une véritable échappée. En revanche, il y a un groupe Eto avec déjà près de 3 minutes de retard sur la tête de course avec notamment le français Adrien Petit.
Voilà la descente de ce Ballon d'Alsace qui se fait à grande vitesse et ça va vite remonter, hein, Jérôme, avec le deuxième col de la journée. Ce sera le col de la Croix des Moinas. Là, ce sont un peu des mises en bouche, hein, des apéritifs en quelque sorte, ces petits cols-là. Hein.
Oui, c'est ça. Donc là, ils vont avoir en bas de cette descente un petit bout de vallée avec le sprint intermédiaire notamment. Et puis voilà, des petits cols, hein, 5 km, 3 km, 4 km. Hein, entre... Alors c'est quand même assez raide, hein, même si les cols sont pas très longs, c'est quand même assez raide. Notamment le col de la Grosse-Pierre, là c'est seulement 3 km mais à 8% de moyenne. Par contre, les deux dernières montées de première catégorie, là il n'y aura pas du tout de vallée. Ils vont descendre le petit ballon, en bas il y a un virage à gauche et poum, on est tout de suite au pied de la dernière difficulté. Mais par contre, toutes les descentes, Arnaud pourra peut-être nous en parler un petit peu après, mais toutes les descentes sont assez techniques, hein, aujourd'hui. Surtout la descente du petit ballon, elle est vraiment technique, il y a pas mal de virages. Alors beaucoup de coureurs connaissent ces routes, soit parce qu'ils sont déjà passés là sur le Tour de France par exemple, ou le Tour d'Alsace, hein, une épreuve réputée chez les amateurs, et on emprunte souvent ces routes-là. Donc voilà, il y a beaucoup de lacets, il y a beaucoup de parties techniques dans ces descentes. Et puis Axel Zing, oh, il y a une chute.
En 20e position après.
On va surveiller ça attentivement parce que cette descente, elle n'est pas facile. On est aux 100 km de l'arrivée. Le panneau arrivé 100 km vient d'être passé. Deux hommes en tête, Zingley et Alaphilippe, mais dans le peloton, il y a eu une petite chute. On va essayer d'avoir l'identité des coureurs dans quelques instants et surtout savoir si ce n'est pas trop grave, alors que les deux Français prennent un petit peu de champ actuellement. Le double champion du monde suivi de Zingley, le coureur de l'équipe Philippe.
Voilà, on parle beaucoup de Thibaut Pinot, on va en parler dans quelques instants, régional de l'étape, mais le seul Alsacien du peloton cette année, c'est Alex Zingler. Hein,
bien sûr,
qui
Axel,
est sur cette terre, lui aussi.
Axel Zingler.
C'est Carlos Rodriguez qui a chuté. Ah, Carlos Rodriguez qui a chuté sur la droite de la route. On va surveiller. Je pense qu'il y a de l'herbe, donc ça devrait aller. Le classement final pourrait avoir un effet sur ce moment de course, puisque Carlos Rodriguez est actuellement arrêté, il a chuté et il y a un groupe qui est en train de se former à l'avant avec Vingegaard notamment, parce que dans ce virage le peloton s'est coupé en deux avec la chute de Carlos Rodriguez arrêté sur le côté de la route. Ça a l'air d'aller pour le coureur de l'équipe Ineos.
Voilà, Carlos Rodriguez qui était ce matin quatrième au classement général à 12 minutes 01 de Vingegaard et donc à 1 minute 16 du podium et de sa troisième marche sur laquelle se trouve Adam Yates. On va
Rodriguez prendre... repart. Ouais. Il repart à l'instant. Il y a un groupe d'une vingtaine de coureurs à l'avant. On aperçoit le maillot jaune de Vingegaard, mais derrière, il y a un trou parce que Tadej Pogacar, lui, n'est pas dans ce premier groupe. Donc l'équipe UAE est en train de rouler dans un deuxième peloton à 99 km de l'arrivée. Et bien déjà, un premier épisode important dans cette étape.
Voilà, il y en a un peu partout avec plusieurs groupes qui se sont formés, Jérôme, pour revenir sur le peloton maillot jaune qui est à l'avant de la course.
Bah, bien sûr, déjà la descente, on l'a dit, a été technique, donc il y a déjà des cassures sans la chute, et la chute ça a coupé, c'est pour ça que j'étais un peu inquiet, parce que ça me semblait que c'était à peu près...
Oh là là, il est abîmé quand même, Rodriguez.
Ouais,
hein.
Ça c'est les lunettes, hein. les lunettes ont dû taper, et il a bien le côté gauche tout pluché, Carlos Rodriguez, et c'est pour ça que j'étais un peu inquiet, parce que c'était à peu près à la hauteur de Vingegaard, ça me semblait que c'était à peu près en 20-25e position, là où à la dernière image on avait vu Vingegaard, et ça a dû se passer juste derrière lui, puisque Vingegaard c'est le dernier du premier groupe, donc la cassure et la chute a pas dû se passer loin du maillot jaune.
Comme quoi, rien n'est fait dans le Tour de France tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée finale, Cyril, et aujourd'hui Jonas Vingegaard va sans doute se montrer très prudent dans cette étape, notamment dans les descentes, parce que Jérôme le disait, les descentes des cols des Vosges sont assez techniques, hein. Cyril, aujourd'hui la descente
après parce que le macadam est de bonne qualité, beaucoup de virages en filade, mais des virages qui vont très vite, donc il faut toujours rester vigilant du premier au dernier kilomètre sur le Tour de France, pas que sur le Tour, et la moindre petite erreur, la moindre petite faute, et bien on vient de le voir avec Rodriguez, et bien ça peut avoir des conséquences importantes. Là je pense que tout va rentrer dans l'ordre, car j'imagine difficilement Vingegaard insister à l'avant. D'ailleurs, on n'a pas le sentiment que UAE est véritablement paniqué derrière. De toute façon, ils n'ont pas l'aide, ils sont déjà à 7 minutes au classement général. Mais dans cette circonstance de course, on ne va pas rouler, et Vingegaard ne va pas rouler pour éliminer le quatrième du classement général.
Si on en était resté à 10 secondes d'écart, comme avant le contre-la-montre, effectivement, peut-être que Vingegaard et ses hommes auraient tenté de faire quelque chose. Mais là, je ne suis pas
sûr. Oui, alors là, vous parlez de la lutte pour la première et la deuxième place. Mais en revanche, pour ce qui est du podium, ça peut jouer quand même. Parce que derrière Carlos Rodriguez, ça se joue en une minute. Il y a Simon Yates, il y a Peyo Bilbao, il y a Jane Lay. Il y a Adam Yates qui est juste devant, il a 1 minute 15. Donc voilà, pour le podium et pour le top 5, ça peut jouer. Pour l'instant, ça roule à l'avant avec. Alors, donc on rappelle qu'il y a ce petit groupe à l'avant. On va peut-être faire un point, Christophe, pour avoir les idées claires, avec Nylands, Pedersen, Alaphilippe, Van Rils qui sont devant, Mathieu Van Der Poel également, Dylan Van Baarle, Giulio Ciccone dans ce groupe, Warren Barguil également, Mikel Landa, et puis un deuxième groupe à 20 secondes où on trouve Vingegaard, et puis un troisième groupe avec les coéquipiers du AE. Là c'est un coéquipier de l'équipe Lotto qui roule dans le groupe du maillot jaune. Pour l'instant,
il y a quatre groupes, me semble-t-il.
Il y a plusieurs groupes. C'est scindé en plusieurs groupes, mais c'est vrai qu'il y a trois gros groupes, un groupe Eto et puis des garçons qui sont dans les voitures. La voiture médicale est demandée actuellement pour Carlos Rodriguez pour venir le soigner. Il y a quelques écarts quand même à surveiller très rapidement.
Voilà la formation Ineos Grenadiers qui est en train d'essayer de remonter Rodriguez, qui a donc chuté dans la première descente de cette 20e étape, dans la descente du Ballon d'Alsace, le quatrième du classement général, qui est remonté dans...
On peut revenir comme ça dans la voiture.
Oui, après une chute,
on n'est pas dans la file des voitures.
C'est toléré, oui, mais après une chute, c'est toléré. Alors Ineos, ils ont deux coureurs dans le premier groupe avec Vingegaard, ils ont Pidcock et Kwiatkowski. Pour l'instant, ils ne leur ont pas demandé de se laisser décrocher pour aider Carlos Rodriguez. Ils ont assez de main d'œuvre dans le groupe Pogacar, si on peut l'appeler comme ça. Donc pour l'instant, il panique pas. En tout cas, Ineos, faut d'abord que Carlos Rodriguez revienne dans le peloton. Ensuite, il ira se faire soigner à la voiture médicale et on verra les conséquences qu'il y aura. Mais bien sûr, quand vous tombez dans la première descente de la journée après le premier col et qu'il en reste encore 5, ça peut être une journée très compliquée pour Carlos Rodriguez et il pourrait tout perdre à la veille de l'arrivée à Paris.
On a vu sa chute dans ce virage. Il glisse. La voiture médicale est également demandée pour Sepkus, donc qui a peut-être été touché également à ce moment-là. Il est juste derrière, hein, dans les mêmes positions.
Je disais, il devait pas du tout être loin de Vingegaard et sa garde rapprochée. Donc si Sepkus était autour de Vingegaard, c'est possible qu'il ait été pris dans la chute en même temps. On verra. Alors il avait déjà un pansement qui va faire changer. Est-ce que c'est une nouvelle chute? Il a l'air râpé quand même sur la fesse droite. Donc oui, il est râpé. Il a le maillot déchiré. Donc Sepkus a dû tomber en même temps que ouais. Rodriguez également.
Et Rodriguez était dans la roue de Vingegaard, me semble-t-il, dans la roue du maillot jaune.
Ouais, c'est possible.
Voilà. Donc attention, méfie, comme on dit dans le sud. Vingegaard est
pour... Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, il y a un exemple, hein, vous parliez de la dangerosité de la route depuis tout à l'heure, enfin en tout cas du côté périlleux de ces Vosges. Là on a vu, hein, pour le coup c'est vraiment la partie la plus facile, on va dire, avec les routes les plus belles de l'étape. Ça sera pas le cas tout à l'heure à partir du moment où on va faire l'ascension du col de la Croix des Moinas, où les routes, vous allez le voir, sont beaucoup plus étroites, beaucoup plus granuleuses. Rappelons-nous le Tour 2014, c'est dans la descente du petit ballon qu'Alberto Contador avait chuté et avait perdu ce Tour de France 2014 qui sera remporté deux semaines plus tard par Vincenzo Nibali. Donc il y a déjà eu des gros dégâts dans les Vosges, l'histoire récente l'a montré.
Très bien, 94 km de l'arrivée, on va essayer de faire un point complet de cette étape, de cette 20e étape avec toi Pierre-Yves. C'est le Top Course
RMC
Top Course.
Eh bien écoutez, je peux vous donner les noms des garçons qui sont devant à 93 km de l'arrivée, qui possèdent 20 secondes d'avance sur le groupe maillot jaune et 52 secondes sur le groupe Rodriguez Pogacar. On va l'appeler comme ça, ce gros groupe, c'est peut-être le peloton finalement. À l'avant de la course, donc il y a Mats Pedersen, il y a Dylan Van Baarle, il y a Tom Pidcock, Stephen Kung également, Warren Barguil, Jonas Vingegaard. Je vais vous faire la liste précise. On va repartir de Jonas Vingegaard accompagné de Dylan Van Baarle. Dans l'équipe Ineos, Mirał Kwiatkowski, Tom Pidcock. Pour l'équipe Groupama, Stephen Kung. Pour l'équipe EIF Education Easy Post, Nelson Poles. Julian Alaphilippe est présent avec Mikel Landa, Giulio Ciccone et Mathias Schielmose accompagné de Mats Pedersen. Ils sont trois, les Lidl Trek. Il y a deux Cofidis avec Jon Izagir et Axel Zingle. Mathieu Van Der Poel est présent avec Chris Neylands également, Warren Barguil, Maxime Van Grils et puis enfin Mathieu Burgodo pour l'équipe Total Energy. On roule à fond à une vingtaine de secondes derrière avec le groupe Pogacar. Pendant ce temps-là, Sepkus est à la voiture médicale.
Hein. Bien touché des deux côtés, Sepkus,
ouais, Jérôme. Bien amoché. La même blessure que Carlos Rodriguez au-dessus de l'œil. Ça, c'est souvent les lunettes. Quand vous tapez, bah vous avez la monture des lunettes qui vous rentre dans la peau. Donc ouais, il a touché sur la fesse droite, l'œil gauche, l'épaule gauche. Donc il a dû tourner, enfin dans sa chute, taper à droite et à gauche.
Et on fait pas de protocole commotion là pour ces deux garçons.
Il est déjà reparti. Là maintenant, on va pas l'arrêter, lui faire le protocole commotion. Ça a l'air d'aller. Hein. Peut-être qu'ils l'ont fait en roulant aussi. Ils ont peut-être fait des tests en roulant qu'on n'a pas vu. Mais voilà, ça va être une étape qui de tous les dangers quand même. Ouais, et là c'est aussi un peu acrobatique pour les médecins du Tour de France pour soigner Sepkus.
Sepkus, qui on le rappelle, est placé lui aussi au général. Il est dans le top 10, juste devant David Gaudu. Allez, on va s'interrompre quelques instants. Il est 14h42. Cette dernière étape de montagne du Tour de France s'annonce dantesque aujourd'hui en direction du Markstein où nous sommes installés avec le camion RMC. Vous pourrez nous voir. On est à 300 mètres de la ligne d'arrivée sur le côté droit. Regardez tout à l'heure si vous suivez le tour à la télé avec les images, évidemment, parce que le son, c'est dans l'intégral tour. À tout de suite.
RMC intégral tour.
Christophe Cessieux.
La 20e et avant-dernière étape de ce Tour de France aujourd'hui. Nous visitons le dernier massif montagneux de notre beau pays. Après les Pyrénées, après le Massif Central, après le Jura, après les Alpes, voici les Vosges aujourd'hui. Avec pas moins de 6 difficultés. La première a été avalée tout à l'heure, le Ballon d'Alsace. Dans un instant, le col de la Croix des Moinas pour l'avant-garde du peloton. Il s'est passé des choses tout à l'heure dans la première descente avec la chute de Carlos Rodriguez, 4e au classement général. Une chute qui a désorganisé quelque peu le
le peloton puisque certains coureurs se sont retrouvés piégés à l'arrière. C'est le cas notamment de Tadej Pogacar. Est-ce que celui-ci a réussi à réintégrer le peloton maillot jaune, Pierre-Yves?
C'est imminent. D'ailleurs, ce n'est plus un peloton maillot jaune parce que Vingegaard, en compagnie de Dylan Van Baarle, a laissé partir la plupart des garçons qui étaient en sa compagnie à l'avant. Et dans quelques secondes, il va réintégrer ce qui va redevenir le peloton sous l'impulsion des UAE, les coéquipiers de Tadej Pogacar. On va revenir et à l'arrière de ce peloton, Carlos Rodriguez, après Sepp Kuss, est actuellement soigné par Florence Pommery. Donc tout va rentrer dans l'ordre, mais c'est surtout le moment où peut-être l'échappée du jour va se créer avec notamment Julien Alaphilippe.
Voilà, Florence Pommery qui a passé sa journée d'hier à soigner Arnaud Souk, qui aujourd'hui eh bien, a du travail avec les coureurs du Tour de France, avec cette gamelle, et ils sont bien abîmés quand même. Et Rodriguez et Kuss, tu le disais, les lunettes en tapant la tête au sol ont blessé les coureurs au visage.
Bien sûr, c'est ce qui arrive souvent. D'ailleurs, un petit tips pour tous ceux qui font du vélo, les branches des lunettes, c'est toujours dessus les lanières du casque, parce que si vous glissez les branches des lunettes sous les lanières, quand vous allez tomber, les lunettes vont rester coincées, vous pouvez vous blesser. Si elles sont au-dessus, elles peuvent voler. Alors là, c'est malheureusement pas arrivé pour Rodriguez et Kuss, mais si on met les branches des lunettes sur les lanières, au moins elles peuvent partir et on peut éviter de se blesser. Ça, c'est voilà.
Enfin, le conseil qu'on peut donner, c'est d'éviter de tomber quand même.
Voilà, alors évitez de tomber, facile, hein. Ou faites comme Campaners, vous roulez sans lunettes, il s'embête pas avec les lunettes. Lui, il a jamais une paire de lunettes. Ouais, malheureusement, faudra voir les conséquences de cette chute. Et pour Sepp Kuss, tu l'as dit, Christophe, qui est 9e du classement général et surtout lieutenant numéro 1 de Vingegaard, et pour Carlos Rodriguez, qui est 4e du classement général. On rappelle que l'année dernière, il avait un podium potentiel sur la Vuelta, et c'est aussi à cause d'une chute qu'il a perdu ce podium. Donc ça serait dommage de perdre sa 4e place ou mieux aujourd'hui à cause de cette chute.
Et si les écarts avaient été de 10 secondes seulement, comme c'était le cas en début de semaine, ça aurait été beaucoup plus compliqué, beaucoup plus inquiétant pour Vingegaard, privé peut-être de son fidèle lieutenant de la montagne, Sepp Kuss.
Attention, on commence peut-être à avoir la tactique des UAE, puisque tout est rentré dans l'ordre désormais. Eh bien, on va pouvoir assister, pourquoi pas, à la vraie course que l'on attend après cette chute de Carlos Rodriguez. Une attaque du côté de l'équipe UAE pour rentrer sur le premier groupe, parce que évidemment il y a une stratégie qui a été mise en place ce matin au bus de l'équipe UAE pour une victoire de Tadej Pogacar.
Ouais, Tadej Pogacar qui a donc réintégré et qui se retrouve à nouveau aux côtés de Jonas Vingegaard. Ils ne se sont pas quittés beaucoup durant le tour, sauf peut-être dans cette étape en direction de Courchevel. La moto RMC, Arnaud, à l'avant de la course, voilà, ça avance très très vite hein, avec cette échappée qui tente de prendre plus de secondes d'avance sur le peloton, alors que Sepp Kuss est complètement pluché.
C'est le retour de la momie.
Ouais, le retour de la momie. Arnaud sur la moto.
Et il va falloir avancer vite parce que c'est extrêmement rapide aujourd'hui. Vous savez, ce sont ces étapes sprint un petit peu, hein, 133 km. C'est la deuxième étape la plus courte du tour. La plus courte, ce sera celle de demain, l'étape du défilé des Champs-Élysées, 110 km. Mais vous savez, ce sont ces étapes qu'ont mis en place hein, l'organisation depuis quelques années. On l'avait eu notamment l'an passé avec une étape qui arrivait à Peyragudes et remportée par Tadej Pogacar. Une étape extrêmement courte. Il y en avait même une, je me souviens, il y a quelques années, d'un tout petit peu moins de 100 km. On espère voilà, avoir des scénarios débridés. Évidemment, l'organisation aujourd'hui, elle n'avait pas du tout envie que ça se passe comme ça. Elle n'avait pas du tout envie qu'il y ait 7 minutes 35 ce matin d'écart entre le premier et le deuxième. Et elle avait complètement imaginé que potentiellement il n'y ait que 10, 15 ou 20 secondes d'écart et que ça nous créerait un scénario complètement fou. Mais même en l'absence de véritable concurrence pour la victoire finale, eh bien, il y a quand même un scénario qui se dessine et qui risque d'être vraiment très très mouvementé aujourd'hui. Et évidemment, la route aujourd'hui, sans quasiment un mètre de plat, favorise tout cela. Et on va le voir notamment à partir de l'ascension là, du col de la Croix des Moinas. Ça va vraiment être, je pense, assez incroyable. Gardez en mémoire cette étape du Tour 2014, encore une fois, dont je vous parlais il y a quelques instants, et vous allez voir, c'est un scénario à mon avis assez similaire qui va se dérouler.
On n'espère pas, on souhaite pas évidemment que Jonas Vingegaard connaisse la même mésaventure.
Non, je parle pas de chute évidemment, je parle de scénario fou, pardon. Voilà. Qu'on soit clair.
Oui, voilà. Devant, il y a donc toujours ce petit groupe, bon, qui prend pas beaucoup d'avance quand même. Hein.
Non, mais il y a des costauds hein, quand même. Pidcock est là, Stephen Kung, je vous redonne leur nom, Nelson Paules, Julien Alaphilippe, Mikel Landa. Donc vous voyez, c'est quand même du lourd. Il y a trois garçons pour la Lidl Trek pour aller chercher le classement de meilleur meilleur grimpeur pour Giulio Ciccone. Il est accompagné de Mathias Kielmose et Mats Pedersen. Pour la Cofidis, Jonis Aguirre avec Axel Zingle, Mathieu Van Der Poel présent également dans ce groupe, Chris Neylands, on en a beaucoup parlé, Warren Barguil, Maxime Van Grils, et puis un Français, Mathieu Burgaudeau. Des hommes en forme, des costauds, ça peut quand même être un très joli groupe pour cette étape.
Ben oui, évidemment, s'ils parviennent à lâcher le peloton maillot jaune, c'est pas encore des écarts conséquents. 23 secondes, Cyril, il y a du beau monde dans cette échappée, ça peut peut-être le faire, hein.
Oui, il y a du beau monde dont certains se sacrifient totalement. C'est le cas de Mats Pedersen actuellement, qui travaille bien sûr pour le leader du classement de la montagne Ciccone. Et puis à signaler quand même que lorsqu'on a fait, vous savez, les paris tout à l'heure, eh bien pratiquement tous les hommes que l'on a nommés, oui, parmi les vainqueurs possibles, ils sont dans ce groupe-là.
À part
et puis
deux,
dernier petit point sur le
Thibaut
règlement.
Thibaut Pinot et David Godu et Tadej Pogacar.
Oui, non, mais ça c'est parce que vous êtes trompé, mais
non. Michael Landa est là.
Il est là, Michael Landa.
Petit point important, on a vu à plusieurs reprises les commissaires faire signe à la voiture Ineos de rejoindre la file des directeurs sportifs. Il avait dans son sillage Carlos Rodriguez. Au cas où les commissaires jugeraient que, et non plus là en fonction des circonstances de course, mettre une amende, ça permettrait vraisemblablement à Simon Yates de passer Carlos Rodriguez, car entre les deux hommes, il y a 18 secondes.
Mmh. Oui, mais souvent ils mettent des amendes parce qu'abri prolongé, mais il n'y a pas toujours en tout cas de pénalité de temps pour le coureur qui est derrière. Hein. Donc,
ça si dépend la distance.
Voilà, ça dépend la distance.
Ce serait quand même de drôle de salopards s'ils mettaient une pénalité.
Vous pouvez pas traiter les
salopards. Le mec qui vient de se casser la tête et tu.
Non, mais franchement. Par contre, qu'il y ait une amende, oui, et puis le DS d'Ineos, il est au courant et puis il se dit tant pis, l'amende on la payera, mais nous on doit ramener le coureur. Des fois il y a des choix à faire, il y a quelques sur
oui, mais bon, il y a des règles aussi, hein.
Oui, il y a des règles aussi, mais des fois
mais les Bretons, vous êtes vraiment à cheval sur la règle, hein, quand
dur
même.
C'est
incroyable,
c'est de l'ex, ouais, la loi est dure, mais c'est la loi.
Il y a sur une course, il y avait un coureur devant, son directeur sportif avait pas le droit d'aller derrière, il y a été quand même, il savait qu'il allait avoir l'amende parce qu'au cas où il y avait un problème de vélo quoi, le coureur aurait perdu la course. Donc des fois les directeurs sportifs, ils prennent des décisions, ils savent qu'ils vont recevoir une amende, tant pis, ils préfèrent assurer.
Les directeurs sportifs respectent les règles, en principe.
Bien sûr.
Les bons, les grands.
Toi, tu n'as jamais transigé avec la loi.
Tu es très grand. Comment, moi, jamais.
Jamais, bien entendu, évidemment.
Jamais pris.
Voilà, c'est ça, jamais pris, c'est surtout ça. Nous sommes quasiment au pied du col de la Croix des Moines, me semble-t-il.
Ils y sont.
Une petite info, il y a trois garçons qui se sont fait piéger dans ce groupe de tête.
Donc Julien Alaphilippe.
Ils ont 10 secondes de retard, 10-12 secondes. Ils s'appellent Julien Alaphilippe, Mathieu Burgaudeau, deux Français, et Michael Landa.
Ah, bah là, d'un seul coup, on en a beaucoup moins.
De toute façon, c'est pas grave parce que ça sera pas encore forcément
l'échappée
la bonne
du jour.
Parce que Bora Hansgrohe notamment ont mis personne dedans et ils sont en train de rouler un peu à l'image de ce qu'on a vu hier.
82 km de l'arrivée de cette 20e et avant-dernière étape du Tour de France. Nous sommes au pied de la deuxième ascension du jour, le col de la Croix des Moinas. On fait un top course avant les infos de 15h avec toi, Pierre-Yves.
RMC
Top Course.
Un groupe en tête avec 12 garçons, dont Tom Pidcock, Kung, Paulès présent. Il y a également Ciccone, Mathias Kielmose, Mats Pedersen, Jonis Aguirre, Axel Zingle, Mathieu Van Der Poel, Chris Neylands, Warren Barguil et Maxime Van Rils. À quelques secondes derrière, il y a trois garçons, dont deux Français, Alaphilippe Burgaudeau et puis également Michael Landa. Et puis à 28 secondes, il y a le peloton, il y a surtout une grosse grosse opération de l'équipe Bora qui fait le forcing là, qui revient sur Mats Pedersen qui a été lâché à 81 km de l'arrivée. Marco Haller est en train de mettre tout le monde en retard en ce moment, alors qu'on arrive dans une nouvelle difficulté de cette journée, le col de la Croix des Moinas.
Voilà, la Bora qui roule pour la victoire d'étape, parce que pour le classement général...
Jay,
il peut rapprocher.
Alors, j'ai mal vu l'image, mais je me demande si le troisième, c'est pas Jay Hindley, justement. Ils étaient trois à partir. Le troisième, c'est...
Je pense que c'est lui.
Je pense que c'est Jay Hindley, et il y a un coureur, ça y est, qu'on voit seulement maintenant. Ouais, c'est ça, c'est Jay Hindley.
C'est avec Bob Jungels.
Ouais, il y a Bob Jungels, et bien sûr, qui est dans la roue d'Hindley, Adam Yates.
Et évidemment, on ne se quitte pas d'une semaine, parce qu'on essaye de conforter ses positions au classement général avant la dernière étape de demain, 14h55. Les infos de 15h arrivent dans un instant. On se retrouve juste après pour cette 20e étape. À tout de suite.